jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est rédacteur en chef pour les États-Unis de la London Review of Books. Il collabore aussi régulièrement à la New York Review of Books, au New Yorker ou au New York Times Magazine, sans oublier son enseignement à l'Université de New York. Mais s'il est ici ce midi, c'est parce qu'il est l'auteur d'une biographie consacrée à l'une des plus grandes figures de la décolonisation, Frantz Fanon. Frantz Fanon, une vie en révolution, c'est le titre de cette biographie qui revient non pas seulement sur l'existence du psychiatre, philosophe et militant pour l'indépendance de l'Algérie notamment, mais tente de détecter les résonances entre ses idées et les mobilisations actuelles antiracistes. Avec toujours ce risque d'imaginer et de fantasmer ce qu'aurait dit un penseur disparu de notre situation, avec toujours ce risque, pour le dire autrement, de faire parler un mort.
Bonjour Adam Schatz.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
Merci.
Alors Adam Schatz, avant de vous demander pourquoi Frantz Fanon, j'aimerais savoir comment vous avez appris à parler un français aussi parfait.
J'ai appris quand j'étais très jeune. J'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 11 ans.
À l'école?
À l'école, oui.
D'accord. Parce que moi aussi, j'ai commencé l'anglais à 11 ans et je pense que je ne parle pas aussi bien que vous.
Je profitais d'une professeure particulière.
Ah, vous aviez des conditions de privilégié, oui. C'est ça. Alors, pourquoi Frantz Fanon? Pourquoi une biographie sur Frantz Fanon? Et aujourd'hui, il n'y a pas d'anniversaire de Frantz Fanon, il est né en 1925, vous auriez pu la sortir l'année prochaine.
C'est vrai, il a décrit un monde colonial qui n'existe plus, mais les traces de ce monde demeurent aujourd'hui. Le racisme, les contrastes violents entre le monde riche et le monde pauvre, et les luttes comme la lutte en Israël-Palestine, par exemple, qui a des ressemblances assez fortes avec la guerre d'Algérie. Alors, c'est pour ces raisons politiques que je me suis mis à écrire ce livre. Pourtant, j'avais aussi des raisons personnelles, parce que depuis que j'étais très jeune, je m'intéressais à la France et à son histoire. Et j'ai découvert la guerre d'Algérie quand j'avais peut-être 15 ans ou 16 ans. Et cette guerre m'a passionné. Et quand j'étais à l'université, j'ai lu Frantz Fanon, qui incarnait presque le modèle de l'intellectuel engagé. Mon père a eu ses livres dans leurs éditions originales, états-unisiennes, Peau noire, masque blanc et Les damnés de la terre. Et j'ai lu cette biographie qui m'a passionné, l'histoire d'un homme entier, psychiatre, qui a lutté pour la France, pour les forces de France libres pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est rangé à côté du FLN contre la France après. Mmh. C'est une histoire incroyable.
Alors, vous dites dans votre biographie que quand vous étiez adolescent, vous avez découvert Frantz Fanon, je cite, dans la petite bibliothèque de littérature révolutionnaire que mon père conservait dans notre cave. Elle était cachée?
Presque, mais pas pour des raisons politiques.
Ah ouais, c'est juste pour des questions d'organisation, il n'y avait pas la place dans le salon.
Oui, exactement, c'était juste une question d'organisation.
Mais qu'est-ce que vous vouliez trouver? Déjà, il y a quelque chose que vous avez dit qui m'interpelle, c'est pourquoi vous avez été fascinée par le conflit en Algérie, par cette guerre d'indépendance. Qu'est-ce qui vous a interpellé? Est-ce que vous avez des liens avec cette histoire-là? Est-ce que vos parents, vos grands-parents avaient un rapport avec l'Algérie?
C'est une question très intéressante. Je n'ai pas de lien personnel avec l'histoire de l'Algérie ni l'histoire de la France. Ma mère a étudié en France en 68, elle avait de la chance et elle a eu des amis là-bas. Alors, il y avait un rapport assez fort avec la France quand j'étais jeune. Mais pourquoi cette guerre d'Algérie? Pourquoi est-ce que je suis devenu si tellement passionné par cette histoire? Je crois que c'est peut-être parce que quand j'avais 15 ans, le premier intifada s'est déclenché et j'ai grandi dans une famille juive, de gauche, laïque.
À New York?
Pas à New York, à Massachusetts. Et j'étais presque obligé de comprendre cette histoire. Alors je me suis mis à lire les historiens révisionnistes de l'Israël comme Benny Morris et Simcha Flapan et les critiques palestiniens comme Edward Said, qui est devenu un ami plusieurs années après. Et pour moi, la guerre d'Algérie était une mode de penser l'Israël-Palestine, mais pas directement, peut-être.
Mais ça, c'est intéressant. Expliquez-moi ce rapport-là que vous faites entre le conflit en Algérie et la situation en Israël-Palestine, d'autant plus que votre biographie sort, alors que il y a eu les attaques du 7
c'est
octobre,
vrai.
Les attaques terroristes du Hamas en Israël.
Oui, il y a des différences profondes, bien sûr.
Oui.
L'Israël n'est pas l'Algérie française. Pourtant, il faut rappeler qu'il y avait des gens un peu comme Theodor Herzl, dans l'histoire coloniale française, Louis Bertrand, par exemple, un idéologue de l'Algérie française, qui proposait que les Français n'arrivaient pas en Algérie quand ils ont colonisé le pays. Ils sont retournés parce que l'histoire de ce pays était une histoire latine et que les musulmans d'Algérie étaient des étrangers. Alors, il était une sorte de sioniste français, on peut dire. À mon avis, la situation en Israël-Palestine n'est pas simplement un conflit colonial. Pourtant, c'est un conflit colonial parce que il y a de grandes colonies dans la Cisjordanie, 700 000, et les luttes entre les Palestiniens colonisés et les Israéliens qui essaient de confisquer leurs terres et de nier même l'existence politique palestinienne. Ce n'est pas la même situation qu'en Algérie française. Pourtant, il y a des ressemblances.
Mais ça vous aide à comprendre quoi, ce conflit en Algérie, sur la situation actuelle, par exemple ?
Les dynamiques du conflit, les dynamiques de violence et de contre-violence, par exemple.
De domination
et d'une violence libératrice, mais en même temps souvent horrifiante. Parce que,
parce qu'on parle de terrorisme.
Oui, et comme vous savez, la violence du FLN était souvent assez horrifiante.
Mm.
Ce n'était pas une guerre pacifique.
Et en lisant Frantz Fanon, Adam Schatz, est-ce que vous avez trouvé des... Vous l'avez lu et voulu faire ce livre pour trouver encore plus de réponses à vos questionnements sur le conflit israélo-palestinien ou vraiment sur ce qui s'est passé en termes de symboles, de lutte contre la colonisation ou aussi pour le public. C'est-à-dire parce que c'est des questions qui sont dans l'air du temps. On parle des mouvements antiracistes. Il y a eu la mort de George Floyd en 2020 où on a pu voir des banderoles avec des citations de Frantz Fanon. En fait, vous l'avez fait pour vous, ce livre, mais déjà dans quel but, mais aussi pour le public. Et là, pourquoi pour le public ?
Oui, c'est intéressant. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches sur ce livre, j'avais l'impression que le livre sera lu à travers le prisme de George Floyd et des luttes antiracistes aux États-Unis. Mais ce n'était pas le cas à cause des attentats du 7 octobre.
Oui, ça a changé le prisme de la réception de votre livre.
Ça change, mais le prisme complètement. Pourtant, heureusement, j'avais écrit dans l'épilogue de ce livre sur l'intérêt très fort chez les Palestiniens dans les ouvrages de Frantz Fanon, les leaders de Fatah dans les années 60 l'ont lu. Il était lu dans les camps du Front populaire. J'écris aussi sur l'influence de Fanon sur la pensée d'Edward Said, mm-hmm. un des fondateurs du postcolonialisme. Et j'écris aussi sur une psychiatre israélienne, Ruhama Martin, une personne très importante dans les droits humains, les droits civiques en Israël, qui a utilisé les ouvrages de Fanon dans son travail. Alors, j'étais heureusement un peu préparé
à avoir cette réception de ce type-là.
Oui, mais il faut dire que je m'intéresse beaucoup à la figure de Fanon historique, pas simplement les échos de sa vie dans le présent. Je n'ai pas écrit ce livre pour commenter le présent.
Oui, pour y voir absolument une réponse aux questions d'aujourd'hui, non. Même si vous avez été quand même interpellé par cette figure.
Non, et en plus, Fanon dans Peau noire, masque blanc, il y a une sorte de prière à la fin de ce livre où il écrit « Oh mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge ». Et j'ai essayé d'être fidèle à cet esprit de d'interrogation et de questionnement. Ce n'est pas un livre qui donne de réponses. C'est un livre qui essaie de réfléchir sur une vie qui était assez complexe. Oui, c'était la vie d'un militant. C'est la vie de quelqu'un que certains considèrent un idéologue de la décolonisation. Mais c'était aussi un penseur. Et c'était un homme qui avait ses vulnérabilités, ses fragilités. Et c'est un côté de Fanon que, pour la plupart, ses admirateurs ainsi que ses détracteurs ignorent.
Un poète, un bon poète, gallo-romain du 5e siècle avant Jésus-Christ, rendait grâce à Rome d'avoir colonisé la Gaule. Il disait « Fecisti patriam diversis gentibus unam ». Gloire, je traduis très librement, tu me l'expliques, italien. Gloire à Rome, qui a fait une patrie unique pour les races les plus différentes de la terre. Eh bien, il faut croire que l'ingratitude a fait des progrès considérables de plaisir. Car j'ai fouillé toute la littérature des peuples colonisés et nulle part je n'ai trouvé d'ode semblable en faveur et à la louange du colonisateur moderne. Et peut-être que la condamnation la plus sévère que l'on puisse porter contre la colonisation, contre l'ordre colonial, c'est de dire qu'il s'est trouvé aucun poète indigène, aucun poète colonisé pour chanter cet ordre et que ces messieurs en prennent leur parti. L'ordre colonial moderne n'aura pas son Rutilius Namatanus.
La voix de Frantz Fanon, c'était le 20 septembre 1956 au Congrès international des écrivains et artistes noirs. Adam Schatz, vous parlez dans votre biographie donc, qui s'intitule « Frantz Fanon, une vie en révolution », pas seulement, vous l'avez dit, de ses idées, pas seulement de la résonance avec l'actualité, mais de ce qu'il était, lui. Tous ces côtés que vous avez dit, les admirateurs et détracteurs ne veulent pas voir. Qu'est-ce que vous vouliez découvrir d'une personne comme Frantz Fanon? Il y avait des secrets que vous vouliez débusquer. Enfin, qu'est-ce qui vous fascinait? Et j'ajoute tout de suite que moi, c'est vraiment une question personnelle que je me pose. Je me pose cette question de quel est l'intérêt d'écrire une biographie, en fait? Quel est l'intérêt de connaître la vie privée, l'intériorité d'une personne?
C'est une très bonne question et je ne dirais pas que j'ai fait des découvertes exactement.
Il n'y a pas de scoop.
Il n'y a pas de scoop dans ce livre, sauf peut-être dans le chapitre sur le Congo, parce que je raconte une histoire qui n'était jamais racontée. Et c'est une histoire d'un amour, d'une relation entre Fanon et une sociologue radicale belge qu'il a rencontrée à un dîner qu'a donné un Américain, un chercheur de l'Afrique, Herbert Weiss, un homme qui est toujours vivant, qui a 95 ans maintenant.
Vous l'avez rencontré ?
Je l'ai rencontré, oui, et on en a parlé. Il était là avec sa compagnon, la sociologue, et à ce dîner, ils ont parlé à Kinshasa, à une maison à Kinshasa, de la paysannerie au Congo, de leur radicalisme. Et Fanon était passionné parce que c'était une thèse qui développait dans le livre qui deviendra Les Dons et la Terre. Mais en même temps, Fanon était également passionné par la sociologue belge, Maryse Perrin, qui était la compagnonne de Herbert Weiss. Mm. Et quelques jours après, il y avait une fête dans le jardin de Doug Hammarskjöld, des Nations Unies. Et Fanon a demandé à Herbert Weiss, que, cette femme, est-ce qu'elle t'appartient? Et oui.
Jolie formule.
Il n'était pas féministe et je ne le cache pas. Et Herb Weiss a répondu, c'est à elle à te répondre.
Ah, mieux quand
mieux.
Même.
Mieux.
Meilleure
mieux,
réponse.
Mieux, absolument. Alors, plus tard, Herb Weiss essayait de la trouver. Et elle est disparue avec Fanon.
Ah oui, pendant longtemps ?
Une nuit.
Oh non, ça
mais va. Mais c'était une nuit très importante parce que...
On était à quel moment de sa vie ? On était en quelle année ?
Ça, c'est 1960, pendant la crise de Lumumba. Mm. Et c'était pendant ce voyage à Kinshasa que Fanon, travaillant avec le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, il a écarté, on peut dire. Il a écarté Lumumba. Il a essayé d'encourager Lumumba de démissionner et de créer une partie politique opposante parce que à ce moment, le FLN qui était à Tunis s'éloignait de Lumumba. Les Tunisiens n'aimaient pas Lumumba et en plus, les Américains qui étaient déterminés d'éliminer Lumumba. Commencer à soutenir la cause algérienne. Et les Américains savaient que le FLN allait gagner. Et le FLN ne voulait pas aliéner les Américains. Alors, Fanon, il était ami avec Lumumba, mais en ce moment, il n'était pas son ami. Et dans ce livre, j'essaie de souligner les tensions et les contradictions entre Fanon, le rebelle, le dissident, l'homme qui critiquait le pouvoir, les systèmes de domination, et Fanon, le bureaucrate révolutionnaire, qui, en se rangeant à côté du FLN, en agissant comme leur porte-parole, est presque censé adhérer à ses ordres. Mm. Même au prix.
Vous dire à se soumettre presque
à
une organisation révolutionnaire.
Oui, son obédience, c'était le prix de son choix révolutionnaire.
Ce qui revient à cette question que je vous ai posée, Adam Schott, quel est l'intérêt d'une biographie ?
Moi,
je peux rappeler quelques dates quand même de François Fanon pour les auditeurs et auditrices. Il est né en 1925 à Fort-de-France, en Martinique. Il est donc français antillais. Il s'est engagé, vous l'avez dit, à 19 ans. C'est en 1943 dans les forces françaises libres. Puis il s'est engagé dans des études de médecine. C'est à Lyon qu'il a fait ses études de médecine. On était après la guerre. En 51, il publie Peau noire, masque blanc. À partir justement du terrain qu'il fait en psychiatrie, où il s'aperçoit en fait que l'expérience vécue du noir, l'aliénation est même intérieure dans le racisme. Et puis il rejoint l'hôpital de Blida-Joinville en Algérie, c'est en 53, et c'est là où il est, effectivement, c'est la guerre d'Algérie après, en 54, et il rejoint le mouvement d'indépendance. Il est même expulsé, en fait, d'Algérie. Il démissionne. Et alors, c'est intéressant ce que vous dites. Il est rentré en Algérie en tant que Français et il est reparti en tant qu'Algérien. Et puis, atteint d'une leucémie, hein, je vais vite.
Vite, mais correct.
Voilà, vite, c'est le principal. Il a une leucémie et il meurt en décembre 61, quelques jours avant, et publié Les damnés de la Terre.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Et il s'était fait soigner à Moscou.
Oui. Avant. Ouais. Et il a appelé les États-Unis le pays des lyncheurs. Il n'est pas du tout heureux d'être aux États-Unis. Mais il est mort aux États-Unis. Et les Américains l'ont fait revivre parce qu'il était découvert par les Black Panthers et d'autres lecteurs américains.
Donc au-delà de ces faits que je viens de rappeler...
Mais pourquoi une biographie?
Oui, voilà. Pourquoi rentrer dans les détails? En plus, c'est laborieux quand même.
C'est laborieux, oui. Et si j'avais su tel effort...
Vous ne l'auriez pas fait.
Non, non, non. La raison, c'est que, à mon avis, comme vous avez dit, Fanon avait une vie pleine d'action et une vie très courte.
36 ans.
36 ans. Et je pense que... Et il a écrit très rapidement. Et il faut rappeler qu'il n'a pas vraiment écrit, il a dicté. C'était sa femme qui a écrit le premier livre, il a dicté, et les deux autres livres, L'enceinte de la révolution algérienne et Les damnés de la terre, étaient écrits par sa secrétaire,
oui.
Marie-Jeanne Manoualan. Il était toujours en mouvement. Et à mon avis, l'écriture de Fanon est assez difficile. Et il y a une sorte de code. Et à mon avis, pour vraiment comprendre ce qu'il écrivait et les basculements et les nuances de ses ouvrages, il faut comprendre qui était Frantz Fanon, qu'est-ce qu'il faisait dans un moment particulier.
Donc vous avez cassé le code?
J'ai essayé.
Alors qu'est-ce que vous avez appris alors? Parce que les grandes thèses de Fanon, la grande thèse on va dire,
ouais.
c'est au départ en tout cas dans Peau noire, masque blanc, c'est vraiment de dire... Le racisme n'est pas qu'une coupure que l'homme noir va vivre à l'extérieur, mais vraiment une coupure ontologique interne,
oui, oui.
Intérieure.
Il n'est pas le premier à le dire. Par exemple, si vous lisez W.E.B. Du Bois dans Souls of Black Folk, il parle de ça aussi. Et il y a des ressemblances, des parallèles entre les écrits de W.E.B. Du Bois ou de Richard Wright et les écrits de Fanon. Et Fanon s'intéressait beaucoup à la littérature afro-américaine, il faut dire.
Alors, qu'est-ce qu'il a dit de plus? Si on retrouve déjà ses thèses un petit peu dans l'air du temps et...
Il a parlé du corps d'une manière qui était absolument frappante. Et je pense que son insistance sur l'expérience vécue, l'expérience corporelle du racisme, le distingue de ses contemporains.
Il n'avait pas su percevoir quoi de cette intériorisation du racisme dans le corps. Quelle est vraiment peut-être l'idée, vous, Adam Schwartz, qui vous a, où vous êtes dit, ça je ne l'ai jamais lu nulle part, en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs, en fait, de le dire comme ça.
Oui. Je pourrais vous donner un exemple qui n'est pas un exemple des Noirs. C'est un exemple qu'il s'agisse des Nord-Africains. Et c'est l'exemple, à mon avis, qui l'a beaucoup influencé et qui l'a même mené à sa décision de poursuivre des études en psychiatrie. Quand il était à Lyon, il a traité beaucoup d'ouvriers nord-africains. Et ces ouvriers, qui étaient très isolés, qui étaient ségrégés, qui souffraient de racisme en France, les Français musulmans d'Algérie, qui n'étaient pas vraiment citoyens, mais à qui on disait « mais vous êtes Français », etc. Fanon a rendu visite à des immeubles où vivaient des ouvriers nord-africains. Et ce qu'il a vu, c'était des hommes qui souffraient de symptômes physiques imaginaires. Mais pourquoi est-ce qu'ils souffraient tant dans leur corps? Les psychiatres français avaient dit « Ah, c'est le syndrome nord-africain, c'est une hallucination ». Ils sont soit paresseux, ils ne veulent pas travailler, soit fous. Ce sont des malades imaginaires. Et pour Fanon, ces hommes souffraient directement dans leur corps de leur isolement, de leur traitement colonial. Alors, il commence dans les années 50, avant son arrivée en Algérie, avant qu'il écrive « Peau noire, masque blanc », il commence à avoir des intuitions sur cette expérience vécue du racisme. Il commence à comprendre que sa discipline, psychiatrie, est imprégnée d'un racisme colonial qui empêche aux psychiatres de comprendre les symptômes de leurs patients. Parce qu'il faut rappeler que Fanon est très important comme critique de sa discipline aussi. Il n'est pas seulement un critique du racisme, c'est un critique de psychiatrie traditionnelle.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas développé des idées politiques qu'il aurait appliquées à la psychiatrie. C'est que c'est vraiment quand il a été médecin qu'il est devenu, en fait, activiste ou idéologue ou théoricien, en fait.
Oui, c'est pour ça que le titre en anglais est « The Rebel's Clinic », la clinique du rebelle, parce qu'à mon avis, la pensée de Fanon prend forme.
Donc, vous n'aimez pas ce sous-titre en français, c'est
non,
ça?
Non, j'aime bien.
J'aime bien révolution.
Non, parce que le titre en anglais ne fait pas de sens en français. Mais sa pensée prend forme dans les espaces de confinement, quand il travaille avec ses patients.
On va écouter la voix d'un philosophe qui a beaucoup fasciné Fanon et qui l'a aussi beaucoup énervé au début.
Je crois que la notion de grande puissance impériale est aujourd'hui un peu partout et pour tous les pays colonialistes morte. Et je pense que la France doit d'abord prendre parti de ce fait. Avant de déclarer qu'on est colonialiste ou anticolonialiste, il faut prendre les faits comme ils sont. Autrefois, quand on était anticolonialiste, on vous disait, vous êtes un rêveur, prenez le point de départ, le fait de la colonie. Et en un certain sens, on avait raison. Aujourd'hui, on peut, aux colonialistes et aux impérialistes, faire la réponse inverse et dire, vous êtes des rêveurs, prenez comme point de départ le fait de la perte de vos colonies, les unes après les autres, du fait que ces colonies, en tant que colonies, partout, n'attendent qu'un signe pour passer à la révolte, du fait que s'il y avait une guerre aujourd'hui, il est très certain que l'ensemble de l'Empire français se transformerait en Indochine. Par conséquent, partons de là.
Vous l'avez reconnu immédiatement, c'était Jean-Paul Sartre le 14 janvier 1951 dans Tribune de Paris sur la chaîne nationale.
Alors en 1951, on peut dire au moment de la publication de Peau noire, masque blanc que Franz Fanon n'aimait pas spécialement Jean-Paul Sartre. Je ne sais pas comment le traduire. Il l'aimait bien à ce moment-là, il était fasciné, mais il s'opposait quand même à l'idée que défendait Sartre à ce moment-là. Il faut être un tout petit peu technique sur cette idée-là. Sartre a une vision hegelienne de l'histoire, donc un mouvement dialectique, un moment positif, puis un moment négatif, puis le moment de la synthèse. C'est le mouvement de l'histoire de Hegel que suivait Sartre à ce moment-là. Le moment positif pour Sartre était celui du moment des Blancs. Je suis très réductrice, je vais très vite. Le moment de la négativité négative, c'était le moment de la négritude. Et la synthèse devait être une société sans race. Sauf que Fanon s'oppose à cette lecture de la négativité comme moment de la négritude, manière d'occulter un petit peu la positivité d'une expérience vécue par les Noirs. À ce moment-là, il y avait une dissension entre les deux.
Il y avait une dissension, mais ma lecture est un peu différente parce que c'est vrai que pour Sartre, la négritude était une phase, un moment faible, comme il dit, dans le développement de la dialectique de l'histoire. Et que pour lui, la négritude avait une beauté tragique. C'était une passion tragique parce que le destin de la négritude est de disparaître quand le prolétariat universel transforme le monde et la couleur n'a pas de valeur, etc. Et quand Fanon a lu ça, il était très déçu parce que Sartre était un allié des luttes des peuples de couleur.
On l'entend d'ailleurs dans l'archive.
Opprimés, oui, bien sûr. Pourtant, il faut rappeler que dans Orphée noir, la préface de l'anthologie de la poésie de la négritude que Léopold Senghor a rédigé, Sartre a déclaré que la poésie noire était la seule poésie révolutionnaire de son temps. Et c'était important. Ce n'était pas le surréalisme, ce n'était pas la poésie de la classe ouvrière, ce n'était pas la poésie socialiste, réaliste, c'était la poésie noire. Alors, Fanon était assez inspiré aussi. Et alors, dans Peau noire, masque blanc, il raconte son trajet. Après qu'il s'est rendu compte qu'il était noir, parce que Fanon, il faut rappeler, Fanon se croyait français quand il était jeune à la Martinique, il ne se croyait pas noir. Alors après qu'il s'est rendu compte qu'il était noir, il s'est immergé dans la poésie de Cédar Senghor, il a baigné dans l'irrationalité, comme il dit. Il imaginait qu'il avait des pouvoirs poétiques uniques à cause de la couleur de sa peau, puis bascule vers la négritude anti-essentialiste d'Aimé Césaire, poète martiniquais et son mentor, parce que le projet de Césaire est plus créatif. Aimé Césaire ne croyait pas dans un esprit éternel noir. Et Fanon croit aussi que le noir souffre différemment dans son corps que le blanc. Alors, il croit dans une expérience unique, existentielle, des noirs dans une société blanche. Alors, il a ses différences avec Sartre, mais je pense qu'il s'aligne aussi avec le récit de Sartre quand il écrit que le noir n'existe pas, le noir n'est pas plus que le blanc. Il y a aussi un rejet d'une politique identitaire.
Ouais. Mais là, il y a deux questions qui se posent. Déjà, cette question, effectivement, d'une politique identitaire qui résonne là fortement avec l'actualité. C'est-à-dire que Sartre rêvait d'une histoire, d'un aboutissement de l'histoire, en tout cas, suivant cette dialectique de société sans race. Fanon, lui, nous rappelle ce que c'est quand même l'expérience vécue dans le corps d'un homme et de femme noire ou d'un homme et de femme blanche. Donc lui, il revient à une forme de vécu. Donc, il n'est pas au même. Il parle pas du même universalisme, en tout cas. La question de l'universalisme, comment elle se pose alors chez Fanon ?
Fanon est universaliste, pourtant, il considère que l'universalisme est un projet qui n'est pas fini.
C'est pour ça qu'il plaît tant aussi aujourd'hui, Fanon, vous pensez ? À ceux qui ont des revendications identitaires, à ceux qui rappellent ce que c'est que l'expérience d'être noir, du racisme.
Ouais, absolument. C'est une question assez complexe parce que il y a des lecteurs de Fanon qui le prennent pour un anti-universaliste. Par exemple, l'école intellectuelle de afro-pessimisme qui a beaucoup d'influence dans les universités aux États-Unis. Et les champions de l'afro-pessimisme tendent à lire seulement Peau noire, masque blanc et regardent ses autres livres, les livres qu'il a écrits après son engagement dans la lutte algérienne, comme une déviation, comme une sorte de trahison de son propre peuple.
Parce que là, pour le coup, il disait que la violence ou la libération ou le fait de s'unir à partir d'expériences similaires liées à l'identité devait être dépassé. Et ça, c'est insupportable, par exemple, pour certains courants qui s'en tiennent juste à Peau noire, masque blanc de 51.
C'est ça, mais c'est aussi parce que Fanon décide de se ranger à côté des gens qui n'étaient pas noirs, qui étaient nord-africains. Et pour l'afro-pessimisme, Fanon s'est éloigné du peuple noir. Et c'est intéressant parce qu'il y avait un penseur tunisien, juif, Albert Memmi, que Fanon n'a pas rencontré, mais Fanon et Memmi se rendaient compte de l'existence de l'autre. Et Memmi, 10 ans après la mort de Fanon, a publié dans l'esprit, le journal catholique progressiste, un papier, La vie impossible de Frantz Fanon. Et dans ce papier, il a dit que le vrai problème de Fanon n'était pas comment être algérien, c'était comment être martiniquais, comment être antillais. Alors c'est un argument qui a beaucoup de similarité avec l'argument des afro-pessimistes, mais je ne partage pas ce sentiment, parce qu'à mon avis, c'est l'aspect nomade de Fanon et sa capacité de se solidariser avec des autres et même de se penser un autre, de se penser algérien, de se penser africain, qui explique son allure.
Juste un dernier mot, et ça va être très rapide, je suis désolée Adam Chasse, mais par rapport à cette relation avec Sartre, il faut dire aussi que Sartre a préfacé Les damnés de la terre. La préface a connu presque plus de succès.
Il a écrasé le livre.
Voilà, il a écrasé le livre. C'est une promotion de la violence. Qu'est-ce que vous répondez, Adam Chasse, aux détracteurs de Fanon qui pensent que c'est un promoteur de la violence pour la libération de peuples dominés? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
C'est vrai et c'est faux.
Vous avez le droit à 2 secondes de plus.
Fanon croyait en la violence, bien sûr, parce que les autres moyens de réforme en Algérie ont échoué. Il croyait aussi dans les bénéfices psychologiques de la violence en Algérie. Pourtant, dans le chapitre de la violence, il y a des nuances très importantes où il écrit par exemple que la haine, le désir légitime de la vengeance et l'antiracisme, le racisme antiraciste, phrase qu'il emprunte de Sartre, ne peut pas soutenir un combat révolutionnaire et que les colonisés doivent reconnaître qu'il y a des alliés même chez les colonisateurs.
Merci beaucoup Adam Schwartz, c'était trop court, on aurait pu encore parler des heures de votre biographie Frantz Fanon, Une vie en révolution, révolution avec un S, c'est aux éditions La Découverte et elle a été traduite par Marc Saint-Huppéry.
Adam Schwartz, nous terminons en musique, vous avez le choix entre 2 morceaux de jazz, soit Monk, soit Coltrane, lequel choisissez-vous?
Coltrane.
Dites-le alors.
Alors on écoutait Coltrane. Vous adorez le jazz, vous me l'avez dit, Adam Schwartz. C'était Lonnie's Lament. C'est ça comme on dit comme ça? Merci beaucoup à vous. Un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparés par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delasselle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Anthony Thomasson. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain.
Vous me ferez un petit cours de saxophone?
Bien sûr.
À demain, Géraldine.
À demain.